Chapitre 31. Opération Sitar.
Ne vous inquiétez pas, mon vieux, je ne suis plus radioactif, dit Shitsiang à Wang Miao, qui était assis à côté de lui. Ces derniers jours, ils m'ont lavé à l'intérieur et à l'extérieur, comme un sac de farine. Votre présence à la réunion n'était pas prévue, mais j'ai insisté. Quelque chose me dit qu'aujourd'hui nous allons voler la vedette.
Tandis qu'il parlait, Shitsiang ramassa un bout de cigare dans un des cendriers posés sur la table de la réunion, l'alluma, tira une bouffée, hocha la tête d'un air satisfait, puis, visiblement détendu, il cracha la fumée vers les visages des participants situés à l'autre bout de la table. L'un d'entre eux était le propriétaire originel du cigare, le colonel Stanton, du corps des Marines des États-Unis. Il jeta à Shitsiang un regard méprisant.
Il y avait à cette réunion beaucoup plus d'officiers militaires en uniforme que lors de la dernière. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que les forces armées du monde entier devaient faire face à un ennemi commun. Le général Chang Weizi prit la parole. « Camarades, tout le monde ici a maintenant la même compréhension de base de la situation. Pour reprendre une expression de notre cher commissaire Shitsiang, nos informations sont maintenant sur un pied d'égalité. La guerre entre les envahisseurs extraterrestres et l'humanité a commencé. Ce sont toutefois nos descendants qui affronteront dans 4 siècles et demi les forces venues de Trisolaris. Nos ennemis sont pour l'heure humains, et par définition, ils doivent être traités comme des traîtres à l'espèce humaine et considérés comme hors de la civilisation. C'est la première fois qu'il nous faut faire face à ce type d'adversaire. La suite des opérations est claire. Nous devons capturer les messages trisolariens interceptés à bord du Jugement Dernier. Ces messages peuvent être d'une importance capitale pour la survie de notre civilisation. Nous n'avons jusqu'à maintenant jamais contrarié la bonne marche du Jugement Dernier. Le navire jouit d'un statut qui lui permet de naviguer légalement dans l'Atlantique. Nous avons été informés qu'il a déposé une demande auprès de l'autorité du canal de Panama pour pouvoir traverser le canal dans 4 jours. C'est une occasion unique pour nous de passer à l'action. Au regard de l'évolution de la situation, c'est une chance qui ne se représentera peut-être plus. Les différents centres d'opérations militaires du globe sont en ce moment même en train d'élaborer des plans d'action. L'état-major central étudiera ces plans et sélectionnera d'ici moins de 10 heures celui qu'il estimera le plus efficace. Le but de cette réunion et de réfléchir ensemble à des plans possibles et d'en soumettre 1 à 3 à l'état-major. Camarades, le temps nous est compté, nous devons faire preuve d'efficacité. Veuillez noter que ces plans doivent ne pas perdre de vue une chose. Il faut s'emparer de façon sécurisée des informations contenues dans le système de Jugement Dernier. Le navire a été construit sur les bases d'un ancien pétrolier. La structure des coques extérieures et intérieures a été renforcée et complexifiée. Même les membres de l'équipage doivent s'aider d'un plan pour retrouver leur chemin lorsqu'ils pénètrent dans des zones dont ils ne sont pas familiers. Alors imaginez la compréhension que nous pouvons avoir de l'architecture du bateau. À l'heure actuelle, nous n'avons même pas réussi à localiser l'emplacement exact du centre informatique, et nous ne savons pas si les messages de Trisolaris sont stockés sur le serveur central, ni combien il existe de sauvegardes. La seule façon d'atteindre notre objectif est de prendre le contrôle du Jugement Dernier. Toute la difficulté est d'éviter que l'ennemi ne supprime les données lors de cette opération. Il serait très facile pour eux de les effacer. En cas d'assaut, il est peu probable que nos ennemis suppriment les messages en utilisant des méthodes conventionnelles, car avec les technologies à notre disposition aujourd'hui, nous aurions tôt fait de les récupérer. Cependant, s'il vide un chargeur de balles sur le disque dur du serveur ou tout autre périphérique de stockage, c'est foutu. Et ça ne leur aura même pas pris 10 secondes. C'est-à-dire que 10 secondes avant que notre plan d'action soit découvert, il faut être suffisamment proche du dispositif de stockage pour empêcher l'ennemi d'agir. Comme nous ignorons son emplacement précis et le nombre de sauvegardes, nous devons éliminer la totalité des ennemis du Jugement Dernier, dans un temps extrêmement court avant que la cible ne soit alertée. Et dans le même temps, nous ne pouvons pas causer de dommages trop lourds à leurs installations, en particulier à leur système informatique. Cette mission est donc extrêmement délicate. Certains camarades prétendent même qu'elle est impossible.
Un officier des forces japonaises d'autodéfense dit « À notre avis, la seule chance de succès de cette mission est d'utiliser nos espions sur le jugement dernier. S'ils peuvent se familiariser avec le système de stockage des messages de Trisolaris, ils seront à même de prendre le contrôle du centre informatique ou bien de déplacer le matériel de stockage avant que nous passions à l'action. »
Quelqu'un demanda « La surveillance du jugement dernier est sous la responsabilité des services de renseignement de l'OTAN et de la CIA. A-t-on seulement des espions infiltrés ?»«
Aucun », répondit un coordinateur de l'OTAN.
« Alors votre idée, c'est du pipi de chat !» glissa Shitsiang, qui reçut aussitôt une salve de regards dédaigneux. « Éliminer tout le personnel d'une structure fermée, sans en même temps abîmer le matériel, je pense tout de suite à utiliser la foudre en boule !» lança le colonel Stanton.
Ding Yi secoua la tête.
« Impossible ! Cette arme est désormais connue de tous !» Nous ignorons si le bateau a été équipé de parois magnétiques de protection contre la foudre en boule. Et même s'il n'y en a pas, si la foudre en boule peut en effet tuer tout l'équipage, elle ne peut pas le faire simultanément. De plus, une fois que la foudre en boule sera entrée dans le bateau, elle planera peut-être un moment dans l'air au-dessus du pont avant de libérer son énergie. Cela peut prendre quelques dizaines de secondes, parfois même jusqu'à une minute. L'ennemi aurait tout à fait le temps de découvrir qu'il est attaqué et de détruire les données.
Le colonel Stanton reprit.
Et une bombe à neutrons?
Colonel, vous savez bien que c'est impossible, répliqua un officier russe.
Les radiations d'une bombe à neutrons ne tuent pas immédiatement les victimes. Une fois qu'elle sera amorcée, les ennemis auront le temps de tenir une réunion comme la nôtre.
Ce fut au tour d'un officier de l'OTAN de prendre la parole.
Nous pourrions utiliser du gaz innervant, mais le temps qu'il se propage sur le bateau, nous ne serons pas parvenus à atteindre l'objectif évoqué par le général Chang Weizi. Il ne nous reste qu'une seule solution, utiliser des grenades incapacitantes et des infrasons, dit le colonel Stanton.
Tout le monde attendit la suite, mais le colonel s'arrêta là. Ce fut Shitsiang qui répondit.
Les grenades incapacitantes sont des jouets que nous utilisons souvent dans la police. Si elles peuvent effectivement étourdir des personnes à l'intérieur d'un bâtiment, elles sont tout juste bonnes à être utilisées pour une chambre ou deux. Avez-vous des grenades incapacitantes utilisables à l'échelle d'un pétrolier ?
Le colonel Stanton secoua la tête.
Non, et si de tels explosifs existaient, je crois bien que nous détruirions aussi les infrastructures internes.
Et des armes infrasoniques ? Demanda quelqu'un.
Nous sommes encore au stade expérimental. Nous ne pensons pas pouvoir les utiliser en combat réel, d'autant que le bateau est immense. Étant donné l'efficacité actuelle des armes infrasoniques à l'essai, si nous menions un assaut majeur contre le jugement dernier, elles n'auraient peut-être comme seul effet que de leur donner des maux de tête et la nausée.
Ah !
Shitsiang éteignit son mégot de cigare, maintenant de la taille d'une cacahuète.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous perdons du temps à discuter de pipi-cha. Souvenez-vous de ce que le général a dit. Le temps nous est compté.
Puis il se tourna vers l'interprète, une jolie lieutenante qui n'avait pas l'air très à l'aise.
Pas facile à traduire, hein, camarade? Donnez-leur juste le sens général, ça suffira.
Le colonel Stanton sembla avoir compris ce qu'il disait. Il pointa le nouveau cigare qu'il venait de sortir de sa boîte sur Shitsiang et lui lança.
« Pour qui se prend-il, ce policier, pour nous parler comme ça ?»«
Et vous êtes ?» riposta Shitsiang.
« Le colonel Stanton est un expert en opérations spéciales, » déclara un officier de l'OTAN. « Il a participé à toutes les grandes opérations militaires depuis le Vietnam. »«
Je vais vous dire qui je suis. » Il y a plus de 30 ans, j'ai fait partie d'un peloton de reconnaissance qui a creusé des dizaines de kilomètres en dessous des lignes vietnamiennes. Nous avons pris d'assaut une station hydrologique sous haute protection et nous avons déjoué le projet des Vietnamiens de faire exploser le barrage pour bloquer la route à notre armée. Voilà mes qualifications. J'ai vaincu l'ennemi qui vous a vaincu. Shitsiang, ça suffit!
lança le général Chang Weizi en tapant sur la table. « Ne nous écartons pas de nos préoccupations. Dis-nous plutôt quel est ton plan.
Je crois que nous ne devrions pas perdre de temps avec ce policier. »
lâcha avec mépris le colonel Stanton en allumant son cigare. Sans même attendre la traduction de l'interprète, Shi Xiang bondit de sa chaise.
« Paolici, Paolici, ça fait la deuxième fois que j'entends ce mot. Quoi, vous snobez la police ? S'il s'agissait de balancer un tas de bombes pour faire péter le bateau en 1000 morceaux, ce serait un job pour vous. Mais pour ce qui est de récupérer quelque chose sans causer aucun dommage, m'est avis que vos petites étoiles sur les épaules ne vous serviront pas à grand-chose. Un cambrioleur ferait ça bien mieux que vous. Pour ce genre de mission, il faut être roublard. Et quand je dis roublard, je parle de vraie roublardise. Et pour ça, vous ne serez jamais aussi bon que les criminels. Ce sont eux les grands maîtres de la roublardise. Vous savez jusqu'à quel point ils peuvent être roublards ? J'ai enquêté sur un vol une fois. Les mecs avaient réussi à voler une bagnole sur un train en marche. Les voitures de devant et de derrière n'avaient pas bougé, mais le train est arrivé à destination avec une voiture manquante. Leurs outils ? Des câbles et quelques crochets en fer. Ça, c'est ce que j'appelle des experts en opérations spéciales. Et un policier de la brigade criminelle comme moi, qui est pourchassé pendant plus de 10 ans des roublards dans ce genre, est formé à la meilleure école. Expose ton plan ou tais-toi, tonna Chang Weizi à l'encontre de Shi Xiang. Il y a tellement de grosses pointures ici que j'ai eu peur que ce ne soit jamais mon tour et que, mon général, vous alliez encore me dire que j'étais mal poli. Tu as déjà atteint le comble de l'impolitesse. Maintenant, dépêche-toi, parle-nous de ta roublardise.
Shi Xiang prit un stylo et se mit à dessiner 2 courbes sur la table. Le canal. Puis il prit un cendrier et le posa entre les 2 courbes.
Le jugement dernier.
Il se rendit ensuite au bout de la table et arracha des mains du colonel Stanton le cigare qu'il venait d'allumer.
« Cet abruti dépasse les bornes !» cria le colonel en se redressant. « Shi Xiang, dehors !» dit Chang Weizi avec une voix sévère. « Attendez que j'ai fini. Donnez-moi encore 1 minute. »
Il tendit la main vers le colonel Stanton.
« Quoi encore ?» demanda le colonel médusé. « Donnez-moi un autre. »
Le colonel hésita un instant et finit par sortir de sa jolie boîte un autre cigare qu'il tendit à Shi Xiang. Ce dernier planta le premier cigare, bout allumé vers le haut, sur la table, de manière qu'il se dresse à la verticale sur la rive du canal qu'il venait de tracer. Il plaça ensuite le second cigare de la même manière, mais sur l'autre rive.
« Nous dressons 2 piliers sur les rives du canal. Entre les 2 piliers, nous tirons de nombreux filaments minces et parallèles que nous espaçons 1/2 mètre environ. Ces filaments seront faits avec des poignards volants, les nanomatériaux créés par le professeur Wang. »
Une fois que Shi Xiang eut fini de parler, il attendit debout quelques secondes, haussa les bras en direction des participants qui n'avaient pas encore eu le temps de réagir avant de lâcher.
« Voilà, c'est tout !»
Puis il tourna les talons et quitta la pièce. L'air semblait s'être figé dans la salle, comme si tous les participants s'étaient transformés en pierre. Même le bourdonnement des ordinateurs autour paraissait s'être tu. Ce ne fut qu'au bout d'un certain temps que quelqu'un rompit timidement le silence.
« Professeur Wang, ces poignards volants se présentent vraiment sous la forme de filaments ?»
Wang Miao acquiesça de la tête.
« Avec les techniques actuelles d'architecture moléculaire, nous ne pouvons en effet produire qu'un matériau filiforme, à peu près équivalent à 1/10 de l'épaisseur d'un cheveu humain. Le commissaire Shi Xiang m'avait demandé ces informations avant le début de la réunion.
En avez-vous une quantité suffisante ?»«
Quelle est la largeur du canal et la hauteur du bateau ?»«
Le point le plus étroit du canal est de 150 mètres. » Le jugement dernier fait 31 mètres de hauteur, avec un tirant d'eau d'environ 8 mètres.
Wang Miao regarda les cigares sur la table et fit un calcul rapide.
Ça devrait le faire.
Suivit un autre long silence. Tous essayaient de se remettre de leur choc.
Et si jamais le matériel de stockage des messages trisolariens, disque dur, disque de sauvegarde ou autre, était lui aussi découpé ? Demanda quelqu'un. Les risques sont faibles. Même si c'était le cas, ça ne poserait pas un gros problème, expliqua un expert en informatique. Je suppose que ce genre de filament doit être suffisamment aiguisé pour faire des coupes homogènes. Que ce soit un disque dur, un CD-ROM ou même une mémoire sous forme de circuit intégré, la plupart des informations pourront être récupérées.
« Quelqu'un a-t-il une meilleure idée ?» demanda Chang Weizi en regardant les participants.
Comme personne ne répondait, il poursuivit.
« Bien, nous allons désormais nous concentrer sur ce plan et en étudier les détails. »
Le colonel Stanton, qui était resté muet jusque-là, se leva.
« Je vais chercher le policier. »
Chang Weizi lui fit signe de rester, puis il cria d'une voix sonore.
« Xiang !»
Ce dernier rentra dans la salle et dévisagea les participants avec une mine goguenarde, puis il s'assit en ramassant les deux cigares plantés à côté du canal. Il enfourna le cigare allumé dans son bec et fourra l'autre dans sa poche. Quelqu'un demanda « Quand le jugement dernier passera entre les piliers, ceux-ci pourront-ils soutenir la force exercée par les poignards volants ? Et si c'était les piliers qui venaient à céder en premier ?»«
C'est facile à résoudre. Nous avons produit une petite quantité de poignards volants se présentant sous forme plate. Nous pourrons les utiliser pour renforcer les endroits où sont fixés les nanofilaments. »
Une discussion débuta ensuite entre les officiers de marine et les spécialistes de la navigation navale.
Le jugement dernier sera peut-être le bateau au plus grand tonnage à jamais passer par le canal de Panama. Son tirant d'eau est très profond. Il faudra aussi songer à installer des nanofilaments sous l'eau. Ce sera une tâche autrement plus délicate. Si le temps nous manque, je suggère de laisser tomber l'idée d'installer des poignards volants sous l'eau. La partie immergée d'un bateau, c'est généralement l'endroit où se trouvent les moteurs, le carburant et le ballast. Le bruit, les vibrations et les interférences y sont importants. L'air y est mauvais. Ce n'est vraiment pas l'endroit idéal pour installer un centre informatique ou ce genre d'appareil. En revanche, en surface, si on pouvait diminuer quelque peu la distance entre les nanofilaments, le résultat serait encore plus efficace. L'idéal serait donc d'agir à la hauteur de l'une des trois écluses du canal. Le jugement dernier est classé comme Panamax. Il a été construit pour pouvoir passer tout juste l'écluse. Nous aurons simplement besoin de filaments de 32 mètres de long. Il sera aussi plus facile d'ériger des piliers et de relier les nanofilaments entre eux, spécialement pour la partie sous-marine. Non. Le passage des écluses est une situation complexe. Les navires sont tirés par 4 locomotives électriques à une vitesse très lente. Ce sera certainement le moment où l'équipage du jugement dernier sera le plus vigilant. Nous avons de grandes chances d'être découverts au moment de la découpe. Que pensez-vous du pont des Amériques, juste après les écluses de Miraflores? Les piliers du pont pourraient être utilisés pour tendre les filaments. Non, la distance entre les piliers est trop importante. Nous n'aurons jamais assez de poignards volants. Alors c'est décidé. L'opération aura lieu au niveau le plus étroit de la coupe Gaillard, une vallée artificielle de 150 mètres de large qui fait partie du canal. Disons 170 en comptant un peu de marge pour les piliers. Si c'est comme ça, la distance minimale entre les filaments devra être de 50 cm, car nous n'en avons pas en quantité suffisante, dit Wang.
Ce qui veut dire, dit Xiang en crachant une bouffée de fumée, qu'il faut agir en plein jour.
Pourquoi ?
Mais parce que l'équipage dort la nuit. Ils seront couchés et un espace de 50 cm sera insuffisant. La journée, même s'ils sont assis ou accroupis, ça ira largement.
Quelques éclats de rire fusèrent. Cette précision macabre apporta un peu de détente dans l'atmosphère pesante de la salle.
« Vous êtes vraiment diabolique !» dit une représentante de l'ONU à ses côtés.
« Tes innocents risquent-ils d'être blessés ?» demanda Wang Miao d'une voix tremblante. Ce fut un officier de marine qui lui répondit.
Au moment de passer les écluses, il y aura à bord une dizaine d'employés de câblage, mais ils seront descendus avant la coupe Gaillard.
En revanche, le pilote du canal qui doit les accompagner durant les 82 kilomètres de leur traversée sera, lui, sacrifié. Un agent de la CIA ajouta. De même qu'une partie de l'équipage du jugement dernier qui ignore probablement tout du rôle réel du bateau sur lequel ils ont embarqué. Professeur, ne pensons pas à tout cela. Ce ne sont pas des choses dont il faut se soucier. Nous avons besoin de récupérer ces informations. La survie de l'humanité est en jeu. Quelqu'un d'autre aura la responsabilité de prendre la décision finale, dit Chang Weizi. À la fin de la réunion, le colonel Stanton poussa sa magnifique boîte en bois remplie de cigares vers Shixiang. Commissaire, des Havanes de première qualité. Je vous les offre. 4 jours plus tard, à la Coupe Gaillard. Wang Miao n'avait pas la sensation de se trouver en pays étranger. Il savait pourtant que pas très loin à l'ouest s'étendait le magnifique lac Gatun et à l'est le splendide pont des Amériques et la ville de Panama, mais il n'aurait aucune chance de les voir. 2 jours plus tôt, ils avaient pris un vol direct depuis la Chine jusqu'à l'aéroport international de Tocumen, pas loin de la ville de Panama, avant de monter dans un hélicoptère qui les avait amenés jusqu'ici. Le paysage devant ses yeux n'avait rien d'extraordinaire. Des ouvriers travaillant à élargir le canal étiraient et rasaient la forêt tropicale sur chaque rive, révélant des étendues de terre jaunâtre, une couleur dont Wang Miao était familier. De là où il était, le canal n'apparaissait pas si grandiose, peut-être parce qu'il se situait dans une portion très étroite. Ce passage avait pourtant été creusé par 100 000 personnes au début du siècle précédent. Wang Miao et le colonel Stanton étaient assis sur des chaises longues, sous un kiosque, à mi-flanc d'une colline avoisinante. Tous deux portaient d'amples chemises à fleurs et de grands chapeaux de paille folkloriques étaient posés à côté d'eux. Ils avaient l'air de deux touristes ordinaires. De cette position, ils avaient une vue panoramique sur le canal. Sous leurs pieds, sur chacune des rives du canal, étaient couchés à plat 2 piliers d'acier longs de 24 mètres, ainsi que 50 câbles de 160 mètres de nanofilaments ultra-résistants, reliés aux 2 piliers et espacés par des intervalles de 50 centimètres. Au bout de la rive, les nanofilaments étaient reliés à du fil d'acier ordinaire, ce qui permettait aux nanomatériaux d'être immergés sous l'eau grâce à des poids. Tout avait été prévu pour laisser passer les autres navires. Fort heureusement, le trafic n'était pas aussi intense que l'avait craint Wang Miao. Chaque jour, une moyenne de 40 navires passait par le canal. La position des 2 piliers en acier devait prendre en compte les activités à la surface. Il fallait attendre que le dernier bateau précédant le jugement dernier soit passé avant de les redresser. Le code de l'opération était Guchang, du nom d'une cithare sur table chinoise. La comparaison de la structure avec cet instrument à cordes avait été naturelle, tandis que le filet coupant de nanomatériaux avait, lui, été surnommé le Xin, un autre genre de cithare. Le jugement dernier était entré dans la coupe Gaillard 1 heure plus tôt par le lac Gatun. Le colonel Stanton demanda à Wang Miao s'il était déjà venu au Panama. Ce dernier répondit par la négative.
« Je suis venu en 1990, » dit le colonel.
« Lors de la guerre ?»«
Oui, mais ce n'est pas une guerre dont je garde beaucoup de souvenirs. » Je me souviens seulement d'avoir été là, en face de l'ambassade du Vatican où s'était réfugié l'ancien président Noriega, quand nous avons diffusé le morceau de rock « Nowhere to Run » de Martin Zvandelas. C'était mon idée.
En bas, sur le canal, un navire de croisière français avançait lentement. Son pont était revêtu d'une moquette verte sur laquelle se promenaient des touristes aux tenues bariolées.
Second poste d'observation au rapport. « Aucun autre bateau en vue droit devant »,
résonna le talkie-walkie.
« Levez la cithare !» ordonna Stanton.
Des hommes coiffés de casques d'ouvriers apparurent sur les deux rives. Wang Miao se leva, mais le colonel le tira pour qu'il se rasseye.
« Ne vous inquiétez pas, professeur, ils savent ce qu'ils ont à faire. » Wang Miao aperçut sur la rive droite les hommes en train de remonter soigneusement les poignards volants et de les fixer, une fois tendus, aux piliers, sécurisés par des plaques elles-mêmes faites en anneaux filaments. Sur les deux rives, les hommes tirèrent ensuite sur un long câble faisant délicatement se dresser les deux colonnes en acier. En guise de camouflage, on avait accroché sur les deux piliers des panneaux d'aide à la navigation et des indications sur la profondeur de l'eau. Les ouvriers agissaient avec une grande sérénité. Certains avaient même l'air de se comporter en dilettante, comme s'ils n'effectuaient là qu'un insipide travail de routine. Wang Miao observa l'espace entre les deux piliers. Rien ne semblait s'y trouver, mais la cithare de mort était bien en place.
« Cible à 4 kilomètres de la cithare, » dit la voix dans le talkie-walkie.
Stanton posa son talkie et continua la discussion. « La deuxième fois que je suis venu au Panama, c'était en 1999, pour la cérémonie de restitution du canal à l'État du Panama. Étrangement, quand nous sommes arrivés devant l'édifice de contrôle du canal, j'ai vu que le drapeau étoilé avait déjà été enlevé. » On a prétendu que c'était le gouvernement des États-Unis qui avait demandé à ôter le drapeau un jour plus tôt, pour éviter que son abaissement ne se fasse devant une foule nombreuse. Je croyais à l'époque que j'assistais à un moment historique, mais maintenant que j'y pense, toutes ces choses-là paraissent bien insignifiantes.
Cible à 3 kilomètres.
Oui, insignifiante, reprit Wang Miao en écho. Il n'avait en réalité pas écouté ce que racontait Stanton. En cet instant précis, le reste du monde avait déjà cessé d'exister. Toutes ses pensées étaient tournées vers ce jugement dernier qui n'était pas encore apparu dans leur champ de vision. Le soleil qui s'était levé sur l'Atlantique s'apprêtait à se coucher sur le Pacifique et les eaux du canal miroitaient d'or. Plus près, sous leurs pieds, la cithare de mort attendait en silence. Les deux piliers d'acier étaient sombres et ne reflétaient aucun rayon du soleil. Ils avaient l'air encore plus anciens que le canal s'écoulant au milieu.
Cible à 2 kilomètres.
Stanton ne semblait pas avoir entendu la voix dans son talkie-walkie. Il continuait à parler pour lui-même.
Depuis que je sais qu'une flotte extraterrestre se dirige vers la Terre, je deviens amnésique. C'est très étrange. Je ne me souviens pas des détails des guerres que j'ai vécues. Comme je viens de le dire, elles me paraissent à présent insignifiantes. Quand j'ai appris cette nouvelle, chaque individu est devenu dans mon esprit comme une nouvelle personne, et le monde comme un nouveau monde. Je me pose sans cesse cette question. Si 2000 ans plus tôt, ou il y a encore plus longtemps, les hommes avaient su qu'une flotte d'extraterrestres allait envahir le monde des milliers d'années plus tard, à quoi ressemblerait la civilisation humaine aujourd'hui? Vous pouvez l'imaginer, professeur?
Oh non, je ne peux pas, répondit superficiellement Wang Miao, l'esprit ailleurs.
Cible à 1,5 kilomètre.
Professeur, je crois que vous êtes le gaillard de ce nouveau siècle. Nous attendons la construction de votre canal de Panama. Quand on y pense, un ascenseur spatial, c'est une sorte de canal. Le canal de Panama peut relier deux océans et l'ascenseur peut connecter la Terre à l'espace.
Wang Miao comprit à présent que les bavardages du colonel étaient en fait destinés à l'aider à traverser cette épreuve difficile. Il lui en était reconnaissant, mais ils n'avaient pas vraiment fait leur effet.
Cible à 1 kilomètre.
Au coude ouest du canal, apparut le jugement dernier. Dos au soleil. Une silhouette noire fusant sur les ondes dorées de l'eau. Ce bâtiment de 60 000 tonnes était beaucoup plus massif que ne l'avait imaginé Wang Miao. Quand il fit son apparition, ce fut comme si une montagne s'était soudain levée à l'ouest et, bien que Wang Miao sût que le canal pouvait laisser passer des navires allant jusqu'à 70 000 tonnes, il trouva que le passage d'un tel navire dans un bras d'eau si étroit avait quelque chose de stupéfiant. Étant donné sa taille immense, le canal sur lequel il voguait paraissait presque ne pas exister, comme une montagne glissant sur la terre. Après s'être habitué aux rayons éblouissants du couchant, il vit que la coque du jugement dernier était de couleur noire et les infrastructures sur le pont de couleur blanche. La gigantesque antenne avait été détruite. Il pouvait entendre le bourdon des moteurs, accompagné par le grondement des vagues rejetées sur la rive par la proue fendant les eaux. À mesure que la distance entre le jugement dernier et la cithare de mort s'amenuisait, le rythme cardiaque de Wang Miao augmentait, sa respiration devenait saccadée. Il eut envie de fuir, mais un excès de faiblesse l'empêcha d'être maître de son propre corps. Une soudaine vague de haine envers Shi Xiang le submergea. Comment ce salaud avait-il pu avoir une telle idée? Comme l'avait dit la représentante de l'ONU, c'était le diable. Mais ce sentiment s'évanouit aussitôt. Il se dit que s'il se trouvait à présent à côté de Shi Xiang, il se sentirait bien plus rassuré. Le colonel Stanton avait invité le commissaire à participer à l'opération, mais Chang Weizi s'y était opposé. On avait besoin de lui là où il était. Wang Miao sentit dans son dos une tape amicale du colonel. « Professeur, ça va passer. » Le jugement dernier était en train d'avancer. Il traversait la cithare de mort. L'air semblait vide quand la proue pénétra dans l'espace situé entre les deux piliers. Wang Miao eut un frisson, mais rien ne se passa. L'énorme coque du navire glissa lentement entre les piliers. Alors que la moitié du bateau était sortie, Wang Miao se prit même à douter de l'existence des nanofilaments. Mais un petit indice mit fin à ses soupçons. Il remarqua tout en haut d'un édifice bâti sur le pont qu'une antenne avait été sectionnée et que son sommet avait roulé sur le sol. Très vite, un deuxième signe révéla la présence des nanofilaments et manqua de provoquer l'effondrement total de Wang Miao. Le vaste pont du jugement dernier était désert. Un seul matelot se trouvait sur le pont arrière en train de nettoyer au jet d'eau les bollards d'amarrage. De sa hauteur, Wang Miao vit le corps de l'homme se raidir subitement lorsque cette partie du bateau passa entre les piliers. Le tuyau glissa de ses mains, le raccord en caoutchouc se fendit en deux et de l'eau se mit à jaillir. L'homme resta debout encore quelques secondes, puis tomba. Au contact du sol du pont, son corps se scinda en deux et l'eau qui sortait du robinet se teinta de rouge. La moitié supérieure du corps rampa un instant dans une mare sanguinolente, mais l'homme ne put céder que de deux moignons car ses bras avaient été tranchés. Lorsque ce fut au tour de la poupe de passer entre les deux piliers, le jugement dernier avançait encore à une vitesse régulière. Tout paraissait calme à bord. Mais Wang Miao entendit brusquement une disharmonie dans la symphonie des moteurs, suivie par un bruit de chaos. C'était comme si une clé de serrage avait été jetée dans les hélices du moteur, ou plutôt non, beaucoup de clés. Wang Miao devina que la partie permettant la rotation du moteur avait été tranchée. Après un assourdissant fracas, un trou apparut à la poupe du navire, provoqué par la fissure de la coque par un énorme élément métallique. L'élément tomba dans le canal et souleva une gigantesque colonne d'eau. Au moment où il s'éleva dans les airs, Wang Miao put voir qu'il s'agissait d'un vilebrequin du moteur. Une épaisse fumée monta du trou. Le jugement dernier, qui naviguait jusqu'alors en longeant la rive droite, changea de direction, la poupe en feu, avant de jaillir hors de l'eau et de tamponner la rive gauche. Wang Miao vit la colossale proue se déformer et fendre une colline comme si c'était de l'eau, provoquant des vagues de terre déchaînées. C'est alors que le jugement dernier se scinda en une quarantaine de plaques d'une épaisseur de 50 cm. De cette distance, on vit le navire s'ouvrir comme un château de cartes, celle du haut tombant plus vite que celle du bas. Ces 40 et quelques plaques glissèrent sur le sol et se télescopèrent dans un crissement, comme si d'innombrables doigts géants raclaient un tableau noir. Ce son insupportable disparut enfin. Le jugement dernier n'était déjà plus qu'un amas de plaques sur la rive, comme une pile d'assiettes renversée par un serveur maladroit. Les assiettes les plus en hauteur étaient celles qui avaient volé le plus loin. Les plaques avaient l'air aussi souples que des fragments de tissu. Elles se disloquèrent bientôt pour prendre des formes complexes, et il était devenu impossible d'imaginer qu'elles avaient un jour été les morceaux d'un bateau. Des troupes de militaires jaillirent de derrière la colline et se précipitèrent vers la rive. Wang Miao fut surpris de constater que tant d'hommes se cachaient si près depuis il ne savait combien de temps. Une flotte d'hélicoptères vomissants vint planer au-dessus du canal. Elle survola la surface de l'eau, maintenant couverte d'une couche d'huile iridescente. Les hélicoptères s'arrêtèrent à hauteur de l'épave du jugement dernier et l'aspergèrent d'une grande quantité de mousse extinctrice. Ils furent bientôt en mesure de contrôler l'incendie qui couvait sur l'épave, tandis que trois autres hélicoptères sortirent des câbles pour faire descendre en rappel des enquêteurs. Surmontant ses frissons, Wang Miao regarda le jugement dernier découpé en plus de 40 morceaux. Il était déjà à moitié recouvert de mousse, mais sur les parties qui restaient encore visibles, Wang Miao put voir leur surface, dont la découpe était aussi lisse que celle d'un miroir et qui reflétait sans le déformer le soleil rouge feu du crépuscule. Il vit également un grand cercle écarlate sur les miroirs, dont il ignorait si c'était du sang. Trois jours plus tard. L'enquêteur. Êtes-vous familière de la civilisation trisolarienne?
Iwenji.
Non. Nous n'avons eu accès qu'à des informations très limitées. En fait, hormis Mike Evans et les autres leaders adventistes qui ont intercepté les messages trisolariens, personne ne possède de détails réels et précis sur leur civilisation. L'enquêteur. Alors d'où vous vient votre espoir? Comment pouvez-vous savoir qu'ils seront en mesure de réformer et d'améliorer la société humaine?
Iwenji. S'ils sont capables de traverser les étoiles pour venir jusque dans notre monde, cela indique que leur science a déjà atteint un niveau très avancé. Une société avec un tel niveau scientifique doit avoir de hauts standards moraux.
Pensez-vous que cette conclusion est elle-même scientifique? Permettez-moi de deviner. Votre grand-père était persuadé que la science pouvait sauver la Chine. Il a très profondément influencé votre père qui vous a influencé à son tour.
Iwenji poussa un soupir silencieux. Je ne sais pas.
Je vous informe que nous avons récupéré l'intégralité des messages trisolariens interceptés par la frange adventiste.
Oh, qu'est-il arrivé à Evans?
Il est mort durant l'opération de capture du jugement dernier.
Evans avait été découpé en trois morceaux par les poignards volants. Il se trouvait alors dans le centre de commandement du navire. Son tronc avait rampé sur près d'un mètre. Lorsqu'il fut découvert, ses deux yeux étaient pointés dans la direction d'un ordinateur, celui dans lequel on avait trouvé les messages trisolariens.
Y a-t-il beaucoup de messages?
Beaucoup. Environ 28 gigaoctets.
C'est impossible. Les bandes de fréquence des communications interstellaires rendent leur vitesse de transmission très faible. Comment aurait-il pu envoyer une somme si importante de données?
Cela nous a aussi intrigués au début. Mais la réalité est bien plus extraordinaire que ce que nous pensions, même dans notre imagination la plus fantaisiste ou la plus débridée. Je vous propose de lire une partie de ces informations. Vous verrez que la réalité de la civilisation trisolarienne est bien différente de celle dont vous avez rêvé.